Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui pèse trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Après l'interview de Maître Kirk Acharian, voici celle d'une avocate tout aussi passionnée et engagée dans la défense des salariés, Maître Fabing. Elise Fabing, c'est le girl power incarné et un militantisme aussi politique que pragmatique. Une vraie badass qui manie avec intelligence tous les codes de sa génération pour la cause des salariés opprimés. Son arme fatale ? L'accès aux droits, pour toutes et tous. C'est pour cela qu'elle est partie en croisade sur les réseaux sociaux aux côtés des comptes précurseurs Balance ton agency, puis Balance ta start-up, pour dénoncer le harcèlement et les discriminations au travail, et transmettre le savoir fondamental pour se défendre dans de telles situations. Car le savoir, c'est le pouvoir, comme elle aime à le répéter. C'est à l'occasion de la sortie de son manuel contre le harcèlement au travail que j'ai rencontré Elise Fabing, pour qu'elle nous parle de son sujet de cœur et d'une autre. Celui des discriminations liées à la maternité. Dans cet épisode, nous discutons ainsi des raisons qui l'ont amenée à se lancer dans ce combat pour l'accès aux droits, de l'importance de soutenir et défendre les mères au travail, des droits et surtout des réflexes fondamentaux à connaître en cas de difficulté, la définition du harcèlement et de la discrimination et ce qui peut concrètement être qualifié comme tel, et de ce que cela implique de se lancer dans une procédure. Cet épisode et le précédent sont complémentaires. Deux réunis devraient permettre à quiconque se pose la question de faire appel à un avocat et ou de lancer un recours, de se projeter plus concrètement dans une telle décision. Bonne écoute. Bonjour Elise.
Bonjour.
Merci de me recevoir dans ton cabinet, je suis vraiment ravie. D'autant plus ravie que tu viens de sortir un livre, Manuel contre le harcèlement au travail, que j'ai dévoré en 3 heures, même pas.
Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi
pour parler
d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc je suis vraiment heureuse d'être là pour en parler avec toi.
Oh, super. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs et auditrices ?
Oui, alors je suis Elise Fabing, je suis avocate spécialisée en droit du travail. Je suis pro-salariée, je ne défends que des salariés. Et mon sujet de cœur, ce sont les discriminations liées à la maternité. Et évidemment, le harcèlement. Et je viens de sortir le manuel contre le harcèlement au travail chez Hachette, qui a pour objet de vraiment démocratiser le droit. J'ai vraiment voulu faire un ouvrage d'éducation populaire.
Justement, tu te présentes comme une militante pour l'accès au droit. Donc ce livre-là va tout à fait dans la lignée de cette mission que tu t'es donnée. Qu'est-ce que tu fais d'autre par ailleurs ?
Alors déjà, j'ai un podcast qui s'appelle « Vos droits au travail ». Donc il y a la saison 1 qui est sortie sur la négociation de départ et promis, dès que j'ai le temps, j'écris la saison 2. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de lives sur les comptes Balance ta startup et Balance ton agency. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Balance ton agency, on a cherché des moyens de faciliter l'accès au droit du travail pour la communauté sur ces comptes. Alors on a essayé plusieurs trucs, des fiches, des vidéos à monter, et puis on a découvert les lives. Alors moi je savais pas ce que c'était, j'étais pas hyper connectée, et ça s'est révélé être hyper puissant, ça a eu beaucoup de succès. Donc on a continué, et c'est vrai que au fur et à mesure des lives, je recevais des tonnes de messages, beaucoup de victimes qui me demandaient mais on peut les trouver où tes conseils, où est-ce qu'ils sont écrits ? Et l'idée du livre a germé. Alors j'avoue qu'au début, j'avais pas tellement le courage de m'y mettre parce que c'est fastidieux d'écrire un livre.
J'imagine.
Mais je suis hyper heureuse qu'il existe parce que ça va vraiment dans la lignée de mon combat de démocratiser l'accès à la justice sociale et de donner tous ces trucs et astuces d'avocate au plus grand nombre.
Cette mission, elle prend ses sources où ?
Alors j'ai toujours été très engagée politiquement et je suis une grande révoltée. Alors déjà parce qu'on a une justice sociale qui dysfonctionne, je me suis rendu compte que seuls les très privilégiés avaient accès à mon cabinet. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'idée d'aller dans un cabinet d'avocat. Les gens n'osent pas, ont peur que ça leur coûte une fortune. Et donc, je voyais que déjà, mes clients qui avaient tous des super jobs, des carrières extraordinaires, des formations dingues, étaient complètement perdus quand il s'agissait de se défendre, avaient du mal à mettre des mots sur ce qui leur arrivait. Et je me suis dit, mais tous les autres, comment ça se passe ? Mmh. Et c'est de ce constat-là qu'est parti ce combat pour l'accès au droit.
D'accord. Et dis-moi, ton livre, du coup, je crois que tu as de très bons retours dans les médias.
Oui, effectivement, je suis hyper honorée. J'ai eu la chance d'avoir un entretien dans Le Monde. J'ai eu Elle. Là, il y a Néon qui va sortir. Il y a eu Combini. J'étais invitée au maternel. Je ne m'attendais pas du tout à avoir... Il y a les Éco-Starts aussi. Je ne m'attendais pas à avoir autant de succès médias. Mais j'ai eu un accueil presse assez exceptionnel pour ce livre dont je suis vraiment honorée et fière.
Oui, parce que ça veut dire que tu touches un sujet de société, en fait.
Ouais, je suis convaincue que c'est un sujet de société parce que tu vois, il y a quand même 8 millions de personnes qui sont en situation de souffrance au travail en France, selon les dernières statistiques. 32% des femmes qui s'estiment avoir été victimes de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste au sein de leur carrière. Donc, évidemment que c'est un sujet sociétal. Et là, je suis hyper déçue que aucun de nos candidats au présidentiel en 2022 ne parle de ce sujet. Mmh. Alors que pour moi, c'est fondamental. Et d'un point de vue égalité femmes-hommes aussi, ces changements sociétaux vont passer par le travail.
Oui, complètement. Mmh. Et par la législation aussi.
Bien sûr.
Ou la jurisprudence.
Tout à fait.
Donc très bon accueil dans les médias, ton livre.
Oui.
Et dans le milieu professionnel, les avocats, comment ils ont vu arriver ce livre ?
Alors, j'ai des confrères qui me soutiennent, des confrères et des consoeurs qui m'ont beaucoup soutenue. Après, j'ai aussi eu pas mal de haters dans la profession. Ah. Tu l'as peut-être vu sur Balance ta Startup ou Balance ton Agency. J'ai eu des messages d'une extrême violence. On me souhaitait de me faire radier du barreau, etc. Mmh. Bon, c'était anonyme. Je ne sais pas si c'était des confrères ou non. Mais oui, ça a pas été facile. Mais nécessairement, quand on s'expose sur ce type de sujet, on a des critiques. Je pense que ça fait partie du jeu. Je les accepte. Ça a été parfois difficile pendant tout ce temps aussi où j'ai soutenu le mouvement des balances. Mais j'ai eu aussi énormément de soutien. J'ai fait des rencontres incroyables. Donc le jeu en valait la chandelle.
Mmh. Tu dis que le sujet des difficultés au travail liées à la maternité, c'est ton sujet de cœur.
Oui.
Peux-tu nous expliquer pourquoi ?
Bien parce que je pense que la maternité, c'est un grand, et la grossesse, hein, c'est un grand moment de vulnérabilité personnelle et professionnelle. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent pour les femmes et que les inégalités prennent leurs racines. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination liée à l'embauche où on se dit, une jeune femme de 30 ans qui a pas d'enfant, tiens, elle va en faire un, ça va être compliqué. Et j'ai vu aussi beaucoup de dossiers où les femmes étaient complètement mises au placard à la suite de leur congé maternité. Et il y a encore un problème sociétal aussi de répartition dans le couple, de la charge des enfants, de la charge mentale, de la gestion d'une famille. Et ça ressurgit sur le travail de façon particulièrement injuste. Et moi, je suis mère aussi, j'ai deux enfants, et je pense qu'il est hyper essentiel de se battre pour les femmes et sur ce volet-là. Mmh. Parce que si on n'a pas un monde de travail plus juste, la société ne sera jamais meilleure.
Mmh. Et toi, tu penses que défendre les mères au travail, c'est défendre les femmes au global.
Bien sûr, c'est défendre les femmes au global. Alors, je suis aussi très spécialisée dans le harcèlement sexuel et les discriminations sexistes en tout genre. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est défendre les femmes au global. Parce que, si tu veux, dans sa carrière, une femme, grosso modo, elle peut être perçue de 30 à 40 ans comme une potentielle mère. Et donc, avec des potentiels freins professionnels, donc à l'embauche, au niveau de son évolution. Et puis, j'ai aussi eu des dossiers de discrimination sexiste liés à l'âge où des femmes, notamment dans la communication, après 50 ans, on leur disait qu'elles étaient ménopausées, donc elles ne pouvaient plus rien vendre. Mmh. Donc ça fait une fenêtre de carrière quand même assez courte pour les femmes. sans discrimination. Donc, c'est d'une injustice crasse et il faut absolument y remédier. Alors moi, je le fais avec mes petits moyens. J'essaye de sensibiliser sur ce sujet au maximum. Je me bats dans mes dossiers. Mais après, on ne fera rien sans les politiques sur ces sujets-là.
Je suis d'accord. Justement, tu parlais des campagnes présidentielles.
Oui.
J'espère que des candidats nous écouteront.
J'espère.
Et dis-moi, justement, si on parle des droits, alors l'idée n'est pas de faire un cours sur les droits fondamentaux des mères au travail, parce que ça serait extrêmement fastidieux et pénible à entendre.
Oui.
Mais qu'est-ce que tu aurais envie que nos auditrices, ou même nos auditeurs, parce qu'ils ont des femmes, ils ont des sœurs, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent du droit lié aux mères, à la maternité, au travail?
Alors, bon, évidemment, il y a tout l'aspect protection absolue pendant la grossesse, pendant le congé maternité, mais attention, pas pendant la période d'essai, donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Si vous n'avez pas annoncé votre grossesse et que vous vous faites licencier, sachez que vous pouvez faire une lettre recommandée dans les 15 jours et que vous serez réintégré, donc ça, c'est un truc fondamental à savoir. Mais surtout, je pense que le message à faire passer, c'est que le nerf de la guerre, c'est la preuve dans tous les dossiers de discrimination. Et en fait, bien sûr, il va vous arriver plein de choses, mais il y a beaucoup d'oral, et donc il est nécessaire de susciter la preuve, de susciter l'écrit, d'enregistrer aussi, pour qu'ensuite vous puissiez avoir un dossier construit et que vous puissiez aller en justice. Parce que j'ai trop de femmes qui viennent me voir et qui ont un dossier vide, et c'est trop tard parce qu'elles n'ont plus d'accès à leur mail, elles n'ont plus accès à rien, et elles n'ont pas alerté, elles n'ont pas suscité la preuve. Donc on a beaucoup plus de mal ensuite à aller contester un licenciement ou même, quand il n'y a pas licenciement, à aller sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur la discrimination parce qu'on n'a pas de preuves. Et puis, j'ai vraiment envie de dire aux femmes et aux hommes qui nous écoutent aussi d'écouter leurs ressentis. Quand vous sentez que ça ne va pas, c'est qu'il faut commencer à se mettre en alerte et à réfléchir. Et bon, alors déjà, à prendre soin de vous, parce que c'est quand même le plus important. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à solliciter votre médecin traitant. Et il n'y a pas de honte à bénéficier d'un arrêt maladie quand on ne va pas bien. Je sais qu'on est dans une culture de la performance, qu'il y a un gros sujet autour de ça. Mais sachez prendre soin de vous, parce qu'une discrimination harcelante, ça peut être dévastateur. Peut avoir des conséquences graves sur l'enfant à naître, sur votre santé. Donc, il faut savoir aussi se mettre sur pause, identifier de quoi vous souffrez et pouvoir agir ensuite en vraiment construisant votre dossier, en alertant, en cherchant de l'aide en interne, en externe, si ça ne mord pas en interne, parce que votre employeur, il a une obligation de protéger votre santé, votre sécurité. Il est renforcé en période, évidemment, de grossesse, maternité. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le message clé. C'est susciter les cris, penser preuve tout le temps.
Oui, ça veut dire que dès qu'on commence à sentir quelque chose qui pue, ou alors se sentir mal à l'aise par rapport à quelque chose, c'est envoyer des mails.
C'est ça.
C'est récupérer des mails.
Et puis des WhatsApp, des Messenger, des Slack. Et pas forcément avec la personne qui te discrimine ou pas forcément avec ta hiérarchie. Ça peut être des messages d'une de tes collègues qui va te dire « Je suis désolée pour ta promotion, c'est vraiment dégueulasse. » Ça, c'est un truc dont je vais me servir parce que un conseil de prud'homme sur des dossiers comme ça, il a besoin de commencement de preuve. Et ensuite, ça va être à l'employeur de prouver qu'il y a pas eu de discrimination et qu'il n'y a pas eu de harcèlement.
D'accord.
Et il y a aussi, en externe, hors entreprise, le défenseur des droits, dont on parle trop peu, qui est là pour vous aider, qui a des pouvoirs d'enquête qui peuvent être intéressants, notamment en cas de discrimination salariale. Tu vois, parce que j'ai beaucoup de dossiers avec des écarts de rémunération complètement hallucinants entre les femmes et les hommes. J'ai un dossier là, il y a 25% de différence à poste égal. Et le défenseur des droits, en fait, il va pouvoir enquêter parce que souvent, on se retrouve avec une entreprise qui ne souhaite pas communiquer les bulletins de salaire.
Bien sûr.
Donc, ça peut être utile. Bon, alors évidemment, nous, dans les conclusions, on va faire des sommations de communiqués, etc. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a le sujet principal quand même qui intéresse les femmes à leur retour de congé maternité, c'est la notion de poste équivalent. Parce qu'on n'a pas droit à retrouver son poste, ça n'existe pas parce qu'il peut y avoir eu une réorganisation en interne. Mais qu'est-ce qu'un poste équivalent? Voilà. Et donc, si on vous propose des postes et que vous jugez que ce ne sont pas des postes équivalents, écrivez, motivez, soyez factuel, expliquez. Et vraiment, les cris va être important parce qu'on pourra contester ensuite derrière l'attribution de ce nouveau poste.
Mmh. Je crois que c'est très important ce que tu dis et on va le répéter et encore le répéter. Oui. Il faut qu'il y ait des preuves.
Tout à fait.
Écrites. C'est ça. Alors qu'elles viennent de votre manager ou qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de collègues, mais il faut des preuves et c'est pas forcément des mails, c'est pas forcément des notes. Ça peut être, tu disais, des SMS, des WhatsApp, n'importe quoi.
Et même des enregistrements depuis le 25 novembre dernier, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui a permis à un employeur, donc c'est une jurisprudence qui était pro-employeur pour le coup, d'utiliser un enregistrement dans le cadre d'une instance prud'homale. Donc, à contrario, si la Cour de cassation l'a validé pour un employeur, pourquoi pas pour un salarié ? Donc, c'est vrai que nous, on produit des enregistrements dans le cadre de nos dossiers.
D'accord.
Oui. Donc, enregistrer.
Oui, donc ça veut dire aussi être, c'est pas tout à fait le terme, mais moi je l'ai été, donc être un peu moins naïve aussi sur le monde du travail.
C'est ça, et puis c'est surtout que la confiance n'exclut pas la protection. Mmh. Ça c'est un message extrêmement important aussi pour les auditrices et les auditeurs. C'est que, moi j'en ai beaucoup qui me disent, mais j'ai tout fait dans cette boîte, je leur ai tout donné, ils ne peuvent pas me faire ça. Mmh. Malheureusement ça arrive. C'est parfois systémique au sein d'une entreprise. Et donc, il faut vous protéger. Parfois, ça ne va pas jusqu'au bout. Parfois, on trouve des solutions RH. Mais il faut quand même se préparer à se protéger. Parce que même si vous ne souhaitez pas aller jusqu'au conseil de prud'homme et aller en justice, même au pénal, hein, pour certaines de mes clientes, même en interne, s'il y avait une enquête RH, etc., c'est important d'avoir des preuves.
Mmh. C'est vrai ce que tu dis, on peut avoir tout donné dans sa boîte, on peut être très reconnu et on peut se dire que personne ne nous fera jamais ça, mais en fait on est les seuls à pouvoir se protéger nous-mêmes.
Tout à fait, et puis il suffit dans une boîte, tu vois qu'il y a un mouvement, un actionnaire, un DG qui s'en va, un nouveau qui arrive, la vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille et elle influe nécessairement sur les salariés, donc il faut rester alerte. Et surtout, vraiment, s'écouter dès les premiers signaux. Tu vois, moi, j'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps qui est venue me voir pour un harcèlement sexuel. Et les textos, c'était hallucinant. Enfin, évidemment qu'elle était victime de harcèlement sexuel. Mais elle avait besoin que je lui dise. Mmh. Et elle allait mal. Elle avait du mal à comprendre pourquoi. Et en fait, le fait que je lui dise que oui, c'était du harcèlement sexuel... Ça lui a fait énormément de bien. Elle avait besoin de cette validation externe sur son dossier. Donc, voilà, il faut vous écouter. Et vraiment, vous n'êtes pas folles et fous. Donc, votre ressenti, il est ultra nécessaire dans ce type de dossier.
Oui, c'est très important ce que tu dis parce que le ressenti permet aussi d'aiguiller sur l'étude de difficulté parce que pour tout béotien qui n'est pas spécialiste en droit du travail ou lui-même en droit tout court, on ne sait pas nous ce que c'est un harcèlement ou une discrimination. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus et puis surtout nous donner quelques exemples concrets qui peuvent arriver pour qu'on arrive à se projeter, sachant que, comme tu dis, il faut faire confiance à ses ressentis dès lors qu'on commence à sentir un peu d'injustice.
Oui, tout à fait. Alors, sur le harcèlement, ça peut être énormément de choses, parce que bon, la définition légale du harcèlement sont des agissements répétés, donc la notion de répétition est importante, mais attention, il n'y a pas de tempo. Donc tu vois, tu peux avoir un premier acte qui était il y a 6 mois et un deuxième la semaine dernière et ça marche, il y a une répétition. Et ça va être des agissements donc répétés qui peuvent porter atteinte aux conditions de travail, à la santé, à l'intégrité, à la dignité d'un salarié, grosso modo. Ce qui est intéressant, c'est la définition jurisprudentielle et ce que la Cour de cassation, parce que tu vois, la définition, elle est quand même assez large, ce que la jurisprudence a considéré être du harcèlement. Et donc, tu as, par exemple, le harcèlement sexuel d'ambiance, quand est instauré un climat sexiste et sexuel au sein d'une entreprise, ça peut être considéré comme du harcèlement.
Ah oui, c'est pas forcément lié à toi spécifiquement.
Le harcèlement peut être d'ambiance, il peut être systémique aussi, ça peut être, tu vois, le fait qu'une entreprise subdivise tellement les tâches que toi, tu sais même plus pourquoi t'es là et ce que tu fais et quel est ton travail et quel est le sens de ton travail. Ça peut être du harcèlement aussi. Le harcèlement, ça peut être une mise au placard également. Ça peut être des humiliations permanentes, Ça peut être...
Des changements de planning.
Des changements de planning au dernier moment, une pression hallucinante, constante, sur les délais de retour de certains travaux. Ça peut être ça. Ça peut être des remarques particulièrement déplacées. Alors, sur le harcèlement sexuel, la répétition n'est pas nécessaire. Ça peut être un acte suffisamment grave qui est de nature à essayer d'obtenir une faveur sexuelle de la part de l'agresseur, enfin de l'agresseur, du harceleur. Donc par exemple, ça a été, tu vois, un patron qui proposait à sa subordonnée de partager sa chambre d'hôtel parce qu'elle avait un coup de soleil et qu'il souhaitait la soigner. Oui, donc tu vois, ça peut être des choses comme ça. Après, dans le harcèlement sexuel, ce qui est compliqué en jurisprudence, c'est la zone grise de la séduction. Donc, c'est-à-dire que la jurisprudence considère que si la salariée a une attitude ambiguë, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Alors moi, je suis très partagée sur cette jurisprudence parce que je pense que c'est nier aussi le lien de subordination économique, la dépendance économique des femmes, la nécessité de travailler de certaines qui ne peuvent pas tout plaquer et qui se sentent parfois obligées de répondre oui à un patron lourd parce que j'en ai qui sont mères célibataires et qui ont besoin de bosser avec les réformes Pôle emploi en plus qui indemnisent de moins en moins bien, c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas démissionner quand on est victime de harcèlement, donc on est toujours un peu tributaire de son patron parce qu'on ne peut pas se retrouver sans revenus. Et c'est aussi nier le phénomène d'emprise qu'ont beaucoup de harceleurs sur leurs victimes. Donc je suis assez partagée sur cette notion d'attitude ambiguë. Moi, je pense que quand on est un patron, un manager, on a une responsabilité vis-à-vis de ses salariés et qu'on ne drague pas. Voilà.
Oui. Dans le cadre de la maternité, j'imagine que le harcèlement, il est plutôt lié à une discrimination, lié à l'État.
Alors, tu as de tout. Tu as la surcharge de travail avant de partir en congé mat. J'ai beaucoup ça.
Ah oui.
Tu vois des femmes à qui on dit tu vas partir 3 mois, donc il faut que 4 mois même, il faut que le dossier machin, le dossier truc, etc. Et donc j'ai des femmes qui se retrouvent à avoir une surcharge de travail dingue avant leur grossesse et ça peut créer des pathologies.
Ah oui, ça c'est du harcèlement.
Pathologies de stress, bien sûr, ça c'est du harcèlement. Après, il y a évidemment... tu vois, moi j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de clientes qui ne souhaitent pas annoncer leur grossesse parce qu'elles sont dans l'attente d'une promotion. Et il y a des promotions qui disparaissent bizarrement après l'annonce d'une grossesse.
J'en ai été victime.
Voilà. Donc on se dit ah mais t'es enceinte. Ah oui non mais tu vas pas avoir le temps. Et puis c'est sous couvert souvent de pseudo bienveillance. En mode tu vas être mère, tu vas avoir besoin de temps. Voilà, tu vas avoir besoin de souffler, de profiter de ton bébé. Le jour où on dira à un homme qui va avoir besoin de temps pour profiter de son bébé, pour lui refuser une promotion, ce sera bien, on en reparlera. Mais il y a ça, et puis il y a évidemment les discriminations salariales. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à temps partiel, mais qui en fait font le même boulot en 4 jours au lieu de 5.
Oui, le faux 4-5e.
Faux 4-5e, ça c'est aussi un sujet. Et puis un écart de rémunération... souvenant que je regardais une vidéo qui a circulé sur les réseaux de Christine Lagarde, qui nous parlait de sa carrière et qui nous disait qu'elle avait été chef d'entreprise dans le public, dans le privé, et qu'en 40 ans, elle n'avait jamais vu une femme demander une augmentation de salaire. Alors que des hommes, beaucoup.
Oui.
Et c'est vrai, il y a un vrai sujet rémunération des femmes dans les entreprises. Et moi, je pense que bon, là-dessus, il faudrait plus de transparence aussi hein, sur les mêmes postes, savoir combien gagnent les homologues masculins. Ça pourrait aider à lutter contre les discriminations salariales, sexistes salariales. Voilà, mais tu vois, ça prend des formes très différentes. Donc, tant sur la rémunération, tant sur la surcharge de travail, c'est aussi mettre une pression, avoir l'impression qu'on fait une fleur. Enfin, donner l'impression à une salariée qu'on lui fait une fleur en acceptant son 4-5e, en la laissant travailler alors que quand même elle est mère et qu'elle peut pas aller à toutes les réunions le soir. Et puis ça va aussi être, tu vois, de la maltraitance un peu quotidienne, à mettre des réunions à 19h alors que tout le monde sait que t'as un gamin à aller chercher.
Que la crèche ne finit pas à 20h.
Voilà, tout ça. Donc oui, c'est multiforme, c'est parfois insidieux. Teinté de pseudo-bienveillance, un peu réactionnaire. Voilà, donc beaucoup de sujets.
C'est clairement sociétal.
Clairement.
Et ce qui me fait comprendre aussi que ça peut être complètement systémique et donc pas forcément avec une intention de nuire de la part du manager ou de l'employeur.
Tout à fait, ça peut être vraiment systémique, faire partie d'une culture d'entreprise. Et effectivement, il y a des employeurs qui tombent des nues.
Mmh.
On leur dit, mais je ne lui ai pas donné sa promotion parce que je pensais que c'était mieux pour elle.
Oui.
Non, mais ça arrive, hein, avec beaucoup de naïveté.
Ouais.
De la part de l'employeur, ça arrive. Et le concept de on peut être mère et souhaiter une carrière épanouissante et challenging est encore loin dans la tête de certains DRH.
C'est mère ou mère,
de patron.
Et puis,
c'est ça.
Et tu devrais déjà être contente que
de travailler,
ton boulot, quoi.
Voilà.
Ouais. Sachant que quand on parle de rémunération, il y a une disposition législative qui oblige une promotion normalement au niveau de la moyenne des rémunérations globales.
Oui, alors une promotion,
enfin une augmentation,
issue de la moyenne des autres rémunérations. Tout à fait. À l'issue du congé mat, en fait, on doit reconstituer ta rémunération comme si tu n'étais pas partie.
Oui.
Mais bon, ça n'est pas suffisant si tu veux parce que ça ne corrige pas tes performances individuelles liées, enfin que tu aurais pu réaliser pendant ton congé mat. Ça n'inclut pas la promotion professionnelle.
Ah bien sûr.
Tu vois.
Ouais.
Donc il y a un vrai sujet. Mais après, je pense que tant qu'on n'aura pas un congé paternité obligatoire de la même durée qu'un congé maternité, il y aura toujours des différences.
Mmh. C'est ça pour toi le nerf de la guerre?
Oui, je pense que ce serait souhaitable. Mmh. Alors, je sais que peu de gens sont d'accord avec moi, mais moi, je pense que la paternité, c'est aussi important que la maternité. Et que dans la vie d'une entreprise, il y a peu de gens qui ont 7 enfants. Donc, pourquoi pas offrir cela aussi au père.
Mmh.
Et je pense que ça peut avoir un rôle sociétal fondamental aussi en termes de rééquilibrage de la charge de famille dans le couple, du lien aussi entre un père et son tout petit bébé. Et ça peut permettre aussi une égalité femme-homme, puisque on neutralisera cette période de congé maternité qui semble poser tant de problèmes que cela aux entreprises.
Oui, c'est du coup une même perception des évolutions de carrière, qu'on soit un homme ou une femme.
C'est ça.
Mmh. Moi, j'en suis convaincue.
Bon, bah, c'est bien, on est d'accord. Une personne d'accord avec moi.
Oh, je pense qu'on est assez nombreuses,
oui,
quand même.
Enfin,
malheureusement, on est nombreuses.
Oui.
Nombreux, moi.
Oh, je...
Ça change.
Ça change. Oui. Je trouve que ça change.
Concernant celles qui vont réagir par rapport aux discriminations et aux difficultés qu'elles subissent, est-ce qu'il y a une oreille particulière des juges?
Non. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comportement spécifique de la justice par rapport à ce type de discrimination qui est jugé comme n'importe quel type de discrimination. Après, c'est quand même un domaine dans lequel, enfin personnellement au cabinet, dans mon cabinet, on va peu en justice parce que il y a des négociations.
Mmh.
Il y a peu d'entreprises qui souhaitent une audience publique sur des discriminations sexistes.
Mmh.
Ça devient quand même un sujet un peu populaire et les entreprises ont peur pour leur image. Donc tu vois, je dirais que bon, de façon générale, sur à peu près tous les dossiers, on transige dans 85% des cas.
Ouais.
Alors ça implique quand même, souvent on fait quand même une requête.
Hein. Mmh.
Il y a un début de... On commence une instance, mais on finit par trouver un terrain d'accord, un terrain d'entente et un accord avec l'entreprise. Alors parfois ça me fait mal hein, parce que j'aimerais qu'il y ait plus de procès.
Et de jurisprudence, du coup.
Et de jurisprudence, évidemment. Mais après, je ne suis pas l'avocate d'une cause, mais d'une cliente ou d'un client. Et attendre 4 ans une décision de justice avec l'aléa d'une justice humaine, pas de juge professionnel aussi en première instance, bien c'est parfois lourd à porter. Et j'ai des clientes et clients qui ont besoin de se reconstruire plus rapidement. Et qui ont besoin aussi d'un soutien financier dans leur reconstruction de carrière, de vie professionnelle. Donc la transaction, c'est... Enfin, moi, je suis très pro-issue amiable dans ces litiges-là, parce que, tu vois, à Nanterre, tu attends 45 mois pour avoir une date d'audience.
45 mois?
Ouais, c'est un déni de justice pour moi. Et c'est que la première instance. T'as un taux de réformation des décisions des conseils de prud'hommes qui est ultra important en appel. Donc, tout le monde fait appel. Enfin, dans 66% des cas, t'as appel. Mmh. Donc, au niveau de la sécurité juridique, c'est compliqué entre la première instance et l'appel. Et puis surtout, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est une vraie souffrance, un procès. Mmh. Alors, ça peut être très libérateur, hein, une bonne décision, mais les 2 ans, 3 ans, 4 ans qui précèdent, c'est lourd. Mmh. Beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de temps mort, il y a des conclusions adverses qui font mal, il y a du stress, la plaidoirie, l'attente du délibéré. Alors, quand on a été victime de harcèlement ou quand on est une jeune mère qui a été discriminée, c'est déjà un vrai traumatisme qui a des conséquences sur la santé physique et mentale, d'ailleurs. Et donc, endurer en plus un procès, c'est parfois insoutenable. Mmh.
Et qu'est-ce que tu as quand même envie de dire à ceux qui voudraient attaquer pour qu'elles ne se découragent pas non plus?
Oui, alors, bon, déjà, il ne faut pas se décourager parce qu'attaquer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'issue amiable. Hein. C'est souvent l'attaque qui enclenche une issue amiable dans un procès. Hein.
Oui, donc ça veut dire pas forcément aller jusqu'au
procès. Voilà, c'est pas forcément aller jusqu'au procès, mais c'est au moins aller déposer une requête et se battre et dénoncer ce qui s'est passé. Et c'est hyper important. Enfin, tu le sais, je suis très pro libération de la parole des victimes. Et c'est nécessaire pour toutes parce que déjà, il faut montrer aux femmes qu'elles ne sont pas seules à subir ces traumatismes. Et ensuite, il faut sensibiliser l'opinion publique sur toutes ces causes-là. Mmh. Tu vois, en 2019, c'est assez frappant, il y a une statistique prédictive qui est sortie. Il y a moins de 1500 requêtes en France sur des faits de harcèlement. Mmh. Alors que tu as 30% des salariés qui s'estiment victimes d'agissements hostiles à leur travail. Ça fait 8 millions de personnes.
Il y a 1 500.
Donc, et en 10 ans, le nombre de demandes devant le Conseil des prud'hommes a été divisé par 2.
Ah bon?
Ouais. Donc, il y a un énorme problème d'accès à la justice sociale. Mmh. Et il faut se mobiliser parce qu'il y a des politiques et des entreprises qui se disent très contents de ces statistiques. Ça veut dire qu'il y a sans doute moins de problèmes, mais c'est faux. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'y aller. Il y a aussi, l'omerta. Il y a la honte sociale d'avoir été victime de discrimination ou de harcèlement encore. Mmh. Parce qu'on est dans une société où... Le bonheur professionnel est érigé en modèle de vie et t'as raté ta vie si t'es pas heureux au boulot. Mmh. Et tu vois, quand tu deviens mère, t'as une injonction aussi. T'as plein d'injonctions quand tu deviens mère, mais c'est pas mon sujet, mais t'as énormément d'injonctions. Mais
tout réussir.
Tu dois tout réussir. Tu dois être une Wonder Woman, une mère... incroyable, dévouée à tes enfants, en même temps une super professionnelle.
Ouais, tu dois réussir ta reprise.
Voilà, tu dois réussir ta reprise, c'est un vrai sujet. Il y a plein d'articles là-dessus qui parfois peuvent paraître culpabilisants quand on se fait virer, qu'on a été discriminé, qu'on est au placard. Et donc parfois, on n'ose pas en parler. Mmh. Puis on se remet beaucoup en cause, parce que c'est un moment compliqué aussi de vie. Donc j'ai beaucoup de clientes qui se disent que c'est de leur faute. Et ça, j'ai pu l'observer, c'est quand même assez féminin.
Hein. La culpabilité.
Tu vois, moi, j'ai des clientes qui viennent me voir et qui, en fait, sont pas prêtes. Tu vois, c'est pas le moment d'attaquer. Mmh. Donc, je leur donne des conseils pour constituer un dossier, etc. Et elles reviennent me voir parfois 6 mois, 1 an, un an et demi après. Mmh. En me disant, ça y est, je suis prête, je peux l'encaisser.
Mmh. Ouais. Oui, il y a cette notion d'acceptabilité aussi, à un moment donné.
Tu peux pas tout faire.
Ouais.
À un moment, tu peux pas tout faire.
Ouais, ouais.
Mais moi, j'ai envie de passer le message qu'il y a un vrai sujet de prévention en matière de harcèlement ou de discrimination et de conserver, de faire des copies d'écran, de vous envoyer des mails si vous le pouvez, de tout garder, de susciter les cris, être en alerte à ce niveau-là. Et puis, le jour où vous serez prête, de le faire.
Mmh. Oui, être en alerte, en fait. Et même cette alerte-là, elle peut se faire... très tôt, même dès l'annonce de la grossesse ou même avant, parce que par rapport au témoignage que j'ai reçu, et toi j'imagine aussi de ta pratique, on sait vite en fait face à qui on a affaire, non?
Oui, je pense qu'on sait assez vite. Et puis il y a aussi un sujet dont on ne parle pas assez, c'est la discrimination des femmes qui sont dans les processus de PMA. Mmh. Parce que ça, ça devient visible au niveau des absences.
Ah oui.
Donc j'en ai plusieurs qui en ont fait les frais, plusieurs clientes. Donc oui, on peut savoir assez vite à qui on a affaire, mais parfois c'est insidieux. Voilà, c'est s'écouter et c'est se protéger tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais, si on commence à ressentir de l'injustice, on fait une copie de son ordinateur, quoi.
C'est un peu ça, et puis on se renseigne, on n'hésite pas à aller consulter un avocat ou une avocate en amont, en avance, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir construire une stratégie de constitution de dossier, qu'on va savoir que l'avocate va pouvoir vous dire où appuyer et quand. Et même si vous n'avez pas de velléité contentieuse pour l'instant, que vous ne vous sentez pas prête, ça peut être utile d'être accompagné en amont, d'avoir des conseils, d'avoir quelqu'un qui vous épaule pendant ces moments difficiles. Et puis, il faut en parler à vos proches. Faut pas garder ça pour vous parce que c'est difficile.
Ne pas rester seul.
Voilà, ne pas rester seul.
Et ne pas penser aussi que
c'est de votre faute.
Peut-être qu'on est coupable. Il faut que la honte, elle change de camp, quoi.
Tout à fait. Tout à fait, ça c'est très important. Et c'est pour ça que ce mouvement de libération de la parole des salariés est pour moi d'utilité publique. Parce qu'il faut que la honte change de camp, il faut que les victimes puissent s'exprimer, et parce qu'il n'y a pas tellement d'autres moyens de le faire que sur les réseaux sociaux de façon anonyme, parce qu'un salarié reste la partie vulnérable du contrat de travail.
Oui, bien sûr. Tu parlais de temps que certaines personnes prenaient et te recontacter au bout de 6 mois, 1 an et demi. Il y a des délais de prescription?
Bien sûr. Alors sur la rupture du contrat de travail, ça va être 1 an seulement. Donc là, il faut être en alerte. Surtout ce qui est exécution du contrat de travail, ça va être 3 ans.
Ça veut dire quoi, exécution du contrat de travail?
Ça veut dire par exemple les heures supplémentaires.
D'accord.
Une exécution déloyale de ton contrat de travail. Et sur le harcèlement, ça va être 5 ans.
Ah oui, donc voilà. On a le temps.
On a le temps, mais en même temps, tu vois, la condamnation moyenne sur un harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 €. Donc si tu veux, pour faire monter les risques contentieux, il faut multiplier les chefs de demande. Donc ça, c'est un truc que j'explique dans mon livre. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder et il faut pouvoir demander un maximum de choses.
Oui, alors concrètement, multiplier les chefs de demande, c'est-à-dire constituer un dossier.
Oui, et ça veut dire...
Tu vas accuser de plein de choses.
Alors, accuser de plein de choses, pas forcément, mais par exemple, si ta clause de forfait jour est nulle, si t'es cadre et que t'as fait plein d'heures sup, eh bien, ça va être calculer tes heures supplémentaires, les demander le repos compensateur afférent, les congés payés afférents, ça va être demander une indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et sécurité du salarié. Ça va être évidemment le harcèlement. Ça va être peut-être parfois la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Parce que concrètement, c'est hyper difficile quand tu as été harcelé, discriminé. S'il n'y a pas eu une bonne réaction RH et que ton employeur a été coupable d'inertie fautive, d'y retourner. Donc c'est parfois demander la résiliation de ton contrat de travail, donc avec... des dommages et intérêts liés à une éventuelle rupture, ton indemnité de licenciement, ton préavis, etc. Donc, c'est demander un maximum de choses pour, si tu veux, avoir un dossier qui soit, d'un point de vue contentieux, dissuasif, pour aller chercher une indemnisation la plus importante possible.
Oui, parce que c'est ça aussi. Il y a toute une stratégie, en fait, derrière
Bien
le travail d'avocat. Et du
Bien
coup,
sûr.
Une stratégie, tu disais, de dissuasion, une stratégie de négociation.
Tout à fait.
En fait, c'est un peu une guerre que tu ouvres.
Oui, 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 clairement.
En tout cas, une guerre psychologique vis-à-vis de l'employeur.
Oui, oui, oui. Enfin, si tu veux, mon métier, c'est la défense.
Ouais.
Donc, nécessairement, quand tu es en défense, tu te prépares à la guerre et au contentieux.
Ouais. Et je pense que c'est très important de l'avoir en tête pour toutes celles qui veulent aller sur ce chemin-là. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est le côté psychologique pour elles.
C'est-à-dire
savoir tenir et savoir aussi faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de... des armes à fournir, et du coup des armes à fournir de l'autre côté aussi, l'accusation de tout le côté employeur va tout faire pour évidemment se défendre aussi.
Évidemment.
Ça ne sera pas forcément ni juste, ni rationnel, ni quoi que ce soit.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir bien travaillé son dossier avant.
Mmh.
Et d'avoir été conseillé un peu en amont par un avocat. Moi, je suis parfois désespérée qu'on ne soit pas venu me voir plus tôt. Voilà. Ça,
alors,
c'est important.
On n'est pas là pour travailler. Alors moi, je précise que je n'ai aucun intérêt dans le milieu des avocats.
Oui.
Mais je pense qu'effectivement, c'est très important parce que l'avocat, ce n'est pas juste la défense, c'est le conseil aussi.
Bien sûr, c'est le conseil en amont, c'est l'accompagnement. C'est presque un coaching juridique, en fait.
Oui, j'allais employer ce terme, en fait.
Ouais.
Et dans le milieu des avocats, Le sujet du retour du congé maternité. Ah. Moi, j'ai reçu des témoignages spontanés d'avocates qui étaient extrêmement maltraitées à leur retour du congé maternité dans leur cabinet. Parce que c'est un sujet...
C'est un sujet hyper compliqué. Alors déjà, les avocats sont souvent collaborateurs... les avocates sont souvent collaboratrices libérales avec assez peu de protection. On ne bénéficie pas de Pôle emploi. Hein. Mmh. Et souvent, ce sont des fausses collaborations puisque en réalité, on est à la disposition de son cabinet principal. Alors, il y a un truc qui est plus favorable chez les avocats, c'est la protection absolue de la femme enceinte, même pendant la période d'essai, ce qui n'est pas le cas dans le privé.
D'accord.
Mais on est encore dans un milieu, même s'il y a une féminisation assez intense de la profession, on reste dans un milieu assez macho, avec beaucoup d'associés hommes dans les cabinets. Et il est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes consoeurs et moins jeunes, et des mères et pas des mères, qui sont victimes de harcèlement, de discrimination sexiste. Et ça peut être compliqué, parce que c'est vrai qu'on exerce une profession qui est exigeante, mais comme plein de salariés. Mais on confond parfois cette exigence avec une disposition H24. C'est pas du tout le cas.
Ouais.
Ouais. Et puis il y a des cabinets qui sont pas forcément très bien organisés, qui ont une culture des gros horaires, et forcément quand on devient mère, c'est plus possible.
Ouais. Ouais.
Et il y a beaucoup de femmes qui abandonnent la profession d'avocat dans les trois premières années.
Ouais. Parce que c'est juste ingérable. Enfin, en plus de discrimination.
Voilà, bien sûr, c'est ingérable. Et puis, c'est vrai qu'on a peu de protection. On n'a pas Pôle emploi.
Il n'y a pas de filet financier derrière.
Il n'y a pas de filet financier derrière, donc ça peut être très difficile.
Ouais.
Ouais.
D'où le fait que certaines, en fait, ne réagissent pas.
Bien sûr, mais tout comme dans le privé, hein, oui. Tu sais, en plus avec les réformes Pôle emploi qui sont arrivées, beaucoup de femmes qui me disent « moi, je ne peux pas me permettre d'être au chômage ». C'est pas possible.
Oui, bien sûr.
Et donc, elles vont encaisser, jusqu'à retrouver un nouveau job. Alors après, t'as des petites stratégies pour essayer de maintenir une rémunération. Donc, notamment, tu vois, quand t'as une bonne prévoyance et que tu vas mal, parce qu'il y en a, il y a pas mal de victimes qui sont pas en mesure de retrouver du boulot tout de suite après.
Ouais.
Eh bien, dans ce cas-là, tu peux, si ton état le justifie, être en arrêt maladie. Et quand il y a une prévoyance, si tu es en arrêt maladie sous prévoyance avant ta sortie des effectifs, tu peux bénéficier de ta prévoyance hors des effectifs. Mmh. Il y a une portabilité. Mmh. Donc ça peut être un bon moyen aussi de maintien de rémunération.
Oui.
Et ça peut te permettre, tu vois, ça peut permettre à une victime de se remettre, de se soigner et de pouvoir repartir avec moins de stress, une fois que ça va mieux, que la santé va mieux.
C'est là où je réalise que vraiment le fait de se faire accompagner par un spécialiste du droit, par un avocat, une avocate en l'occurrence, c'est vraiment essentiel, parce qu'en fait il y a tellement de nuances, de choses à connaître, quand on est en plein dans le traumatisme.
Oui, c'est dur.
Ça fait trop.
C'est dur. Après, dans mon livre, j'essaye vraiment de donner plein de conseils. Mmh. Donc j'explique aussi ça sur le maintien de la rémunération, etc. Parce que l'argent, ça reste capital dans ces sujets-là.
Bien sûr.
La rémunération, surtout quand on est jeune maman, c'est... Enfin, tout le temps, tout le monde a besoin de manger. Hein,
mais
quand t'es mère, ouais, t'as une responsabilité financière supplémentaire, donc ouais. ça peut être encore un sujet encore plus compliqué.
Le congé parental a une protection spécifique ? Une protection tout court, même ?
Le congé parental, oui, bah tu peux pas. Enfin, le congé parental, t'es moins protégé qu'en congé maternité, mais il y a beaucoup de cas de discrimination à la suite du congé parental.
Ouais.
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 Donc c'est toujours pareil, c'est la preuve.
Ça sera le mot de la fin ou tu veux partager autre chose ?
Pour moi, ça sera le mot de la fin. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la preuve. Et puis le savoir, c'est le pouvoir. Je le dis tout le temps. Alors prenez-le, apprenez à vous défendre.
Merci beaucoup, Elise.
Merci à toi.
Empowerment, c'est le mot qui résonne à l'issue de cet entretien. Car Elise Fabing a ce talent de transmettre son savoir de manière aussi pédagogique que galvanisante. Elle donne vraiment du sens à cette notion d'empowerment, où il s'agit de doter les individus de capacités nouvelles et de leur permettre de prendre en main leur destin. Sans oublier les nuances, celles liées au poids que peuvent représenter le temps et les exigences d'une procédure judiciaire, la disponibilité mentale et émotionnelle que cela demande. car Lise Fabing est parfaitement consciente des souffrances que les victimes de harcèlement et de discrimination ont déjà subies. Elle a à cœur de ne pas en rajouter. Et c'est cela qui révèle les qualités d'un bon avocat, l'empathie alliée à l'exigence. Que retenir de cette interview ? Deux conseils clés. Faites confiance à vos ressentis. Et le nerf de la guerre, c'est la preuve. Et vous entendrez dans le prochain épisode comment une jeune mère a appliqué ses conseils pour construire sa défense contre le harcèlement qu'elle a subi dès son retour de congé maternité. Pensez à vous abonner pour ne pas le rater.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.